RMC, 19h-20h, l'After Tour.
Christophe Cessieux.
Bonsoir à tous et bienvenue à Boulogne-sur-Mer au terme de cette deuxième étape du Tour de France qui nous a régalé, notamment le final époustouflant et la victoire de Mathieu Van Der Poel qui s'impose pour la deuxième fois dans sa carrière sur une étape du Tour de France et qui pour la deuxième fois de sa carrière s'empare également du maillot jaune. Il fait exactement ce qu'il avait fait il y a 4 ans à Mur de Bretagne. On va évidemment revenir sur le triomphe de Mathieu Van Der Poel, sur ce sprint royal en côte livré donc par Van Der Poel, par Pogacar, par Vingegaard et par les Français. Par les Français qui nous ont régalé aujourd'hui, notamment dans le final. Romain Grégoire, Kevin Vauclin, Julien Alaphilippe et bien d'autres qui sont tous classés mais qui n'ont pas réussi à battre les plus grands cadors. Pour évoquer tout cela, toute l'équipe de l'After est à mes côtés, évidemment, avec les deux GG, JC et JP, Jérôme Coppel, Jérôme Pinault. Comment ça va les garçons?
Ça va très bien, messieurs.
Bonne forme.
Bah écoute, ça va très très bien.
On s'est régalé. Enfin,
on a eu une longue période d'attente, mais oui. Je crois que comme quelqu'un qui commande une dame blanche, tu sais, par exemple Christophe Cessieux, qui l'attend pendant 2 heures parce qu'elle est longue à venir. Mais après,
j'en ai mangé qu'une en 5 jours.
Tu parles de glace là ?
Par repas.
Non,
une le matin, une le midi, le soir.
Non mais l'autre, non mais c'est une balance alors qu'en plus il arrête pas de bouffer des frites tous les jours à midi, tous les soirs.
Non, je dois rétablir la vérité. Je commande des frites et tu les bouffes. C'est pas pareil.
Jérôme Coppel, lui fait le métier. Pas de petit déj.
Petit déj. Mais jamais de dessert.
Petit sandwich à midi,
léger, voilà. Très bien.
Alors celui qui fait le grand chelem, c'est évidemment Pierre-Yves Leroux, c'est-à-dire petit déjeuner, sandwich à midi, dessert le soir.
Et qui est le plus sec?
Et c'est vrai que t'es assez sec. C'est parce que tu cours, ça.
Tu fais partie de la catégorie des faux maigres.
Évidemment.
Et pour parler. Et des vrais chauves.
Pour parler de l'attente, il y avait Georges Clémenceau qui disait le meilleur moment de l'amour, c'est quand on monte l'escalier.
Ouais.
Ça, il faut être. Bien
sûr, c'est ça. Aujourd'hui, c'était tout à fait ça. On a attendu avec beaucoup d'impatience ce final. On n'a pas été déçus.
Exactement. Nous n'avons pas été déçus avec ce sprint royal livré dans les rues de Boulogne-sur-Mer par tous les cadors. Mathieu Van Der Poel en tête qui s'impose devant Pogacar, devant Vingegaard, devant Grégoire et tous les autres. On revit ce final époustouflant. C'était tout à l'heure dans l'Intégral Tour sur RMC.
Précédemment dans l'Intégral Tour sur RMC.
Bonjour à tous, c'est l'heure de l'intégral Tour de France pour la deuxième étape de cette grande boucle 2025.
194 km encore à parcourir dans cette longue étape entre Lauvin-Planck et Boulogne-sur-Mer qui en comptait 209. C'est parti avec Jonathan Milan, avec Binyam Girmay, avec Turgis présent également, avec Tim Merlier qui est à la bagarre et ça va être juste, je dirais, Tim Merlier et on a vu aussi Jasper Philipsen, Brian Cocard qui n'est pas content du tout. Oh, ça grogne énormément entre Milan et Binyam Girmay, également entre Cocard et Pauwels. Ça casse devant sous l'impulsion de Jorgensen. Ils ne sont plus que 6 avec Tadej Pogacar dans la roue, avec Vingegaard juste derrière, Mathieu Van Der Poel, Evenepoel et Romain Grégoire. Attaque de Vauclin. C'est parti pour l'attaque de Vauclin. Kevin Vauclin, il veut sa victoire. Il avait dit, c'est ma semaine, on sera pas très loin de chez moi. Dès les premières étapes, Tadej Pogacar est présent également, Mathieu Van Der Poel. Il n'a pas réussi à faire le trou, mais ça casse derrière. Attaque de Vingegaard juste après le sommet de la côte d'Outron. Le voilà, le spectacle de la Jumbo Visma. Evenepoel dans la roue, Pogacar également qui suit.
RMC, la flamme rouge.
Attaque d'Alaphilippe sur la gauche de la route. Alaphilippe qui tente quelque chose. Il est tout de suite surveillé par Mathieu Van Der Poel et Tadej Pogacar. Kevin Vauclin, est-ce qu'il va tenter quelque chose? Tadej Pogacar surveille. Pogacar surveille la gauche. Il a vu Kevin Vauclin. Il est parti pour le sprint final. Van Der Poel en force. Van Der Poel avec Pogacar dans sa roue. Pogacar, Van Der Poel, Pogacar. Van Der Poel qui s'impose devant Tadej Pogacar. Troisième, Vingegaard. Le superbe succès de Mathieu Van Der Poel devant Tadej Pogacar aujourd'hui.
RMC, l'After Tour.
Voilà, Mathieu Van Der Poel qui s'impose donc ici à Boulogne-sur-Mer. Il était le grandissime favori de tous les bookmakers ce matin au départ et il n'a pas déçu. Il déçoit rarement quand même ce garçon, faut bien le dire, lorsqu'il décide de faire quelque chose. Alors on verra tout à l'heure que sur le Tour de France, ça n'a pas toujours été ça. Mais quand il décide d'inscrire une course à son palmarès, il se rate assez rarement quand même.
Ah bah ça c'est sûr. Et puis quel palmarès il a. Bien sûr, les classiques, le cyclocross, le VTT. Il lui manque quoi, un titre de champion du monde? monde en VTT, ouais, champion olympique. Un peu plus de mal en VTT, mais c'est vrai qu'il ne se rate jamais. Niveau placement, il est toujours bien placé. Il a une pointe de vitesse qui lui permet d'arranger quasiment les meilleurs sprinteurs du monde aussi. Et sur une arrivée comme aujourd'hui à Boulogne, avec 4-5% de pente, il est quasiment imbattable.
Une science de la course en plus. Et là, sur le final, il est tout seul de l'équipe Alpecin de Koenig, tôt, et il a parfaitement manœuvré.
Cette science de la course, on rappelle souvent ses origines, on écoutera tout à l'heure son papa, Dries Van Der Poel, double vainqueur d'étapes sur les routes du Tour, vainqueur de plusieurs grandes classiques, lui aussi, on rappelle aussi le grand-père, il a toujours baigné dans l'univers du vélo, des deux côtés de sa famille. Est-ce que, avant de devenir professionnel, ça s'apprend aussi, ce genre de choses, quand tu écoutes, quand tu regardes ton père, ton grand-père, même s'il n'a pas connu son grand-père en course, mais son père, oui.
Ouais, alors je sais pas si c'est inné, mais bien sûr que quand tu baignes dans le milieu du vélo, que tu regardes des courses de vélo depuis que t'es tout petit, que ton grand-père qui doit expliquer les stratégies de course, ou ton père, regarde, lui là il fait une erreur pour ci, pour ça, regarde, lui il court bien, il est bien placé, etc. Bien sûr que ça doit t'aider. Après, quand t'es sur le vélo, c'est encore différent. Lui, il a l'avantage d'être via le cyclocross et le VTT ultra habile, donc il est toujours bien placé. Et quand t'es fort, c'est aussi plus facile de lire la course, parce que quand t'es à fond dans les roues, tu vois même pas le mec qui est devant toi parce que tu vois tout flou. C'est compliqué de bien courir. Donc lui, il est toujours bien placé, il est fort, donc ça lui permet de bien lire la course. Mais il y a des coureurs qui sont très forts et qui courent comme des ânes.
Bah, et puis il est génétiquement programmé pour être champion, et en plus la tête est bien faite. T'as beau parler de vélo toute la journée, si t'es un peu neuneux, ça rentre pas. Lui, c'est pas du tout le cas. Mathieu, il est bien dans sa tête, il est fort, il est très fort. On le rappelle, il a un frangin qui a couru et il lui a tout piqué.
David.
C'était le prototype, le frangin. Derrière, l'autre, il a tout ce qu'il faut. Et puis en plus, il s'est enjoué, quoi. C'est-à-dire, comme tu le dis, il a maintenant le luxe de dire, bon, je vais aller sur le tour, je vais vous la claquer, celle-là. Comme ça, vous arrêterez de m'embêter avec mes victoires, parce que c'est ça. Et en plus, si ce n'est qu'aujourd'hui, il a le maillot. C'est-à-dire que quand il fait pas à moitié, quoi. Rappelez-vous, Mur de Bretagne, il gagne. Il avait mis une cacahuète le tour d'avant.
Ouais, il gagne solo.
Il s'était vu gagner tout seul. Bon, il s'est dit, bon, j'attends le tour d'après. Il est quasiment imbattable dans ces conditions-là.
D'ailleurs, si vous regardez ce qu'il a gagné depuis 3 ans, il y a une vingtaine de courses. C'est 17 courses majeures. Il y a 3 courses un petit peu en dessous, mais sinon, ce ne sont que des grandes victoires. Donc, il va chercher vraiment ça.
Oui, de toute façon, il prend déjà pas le départ des, entre guillemets, petites courses. Il fait que des grosses courses, Mathieu.
À part les cyclocross, où là, il s'aligne quand même. Même si cette année, il a un peu réduit son programme.
Il a un peu réduit, mais en cyclocross, c'est que des grands cyclocross qu'il fait. Il va pas faire le cyclocross de Petao Schnock. Il fait que des manches de Coupe du Monde.
Oui, mais ça veut dire qu'au fil de l'année, quand même, tu accumules le nombre de courses. Je veux dire, il est quand même présent.
Les crosses, c'est une heure.
Oui, peut-être.
Pour lui,
il est quand même présent.
Lui c'est une heure pendant et l'hiver, c'est une demi-heure à fond.
Pendant l'hiver sur les cyclocross. Ensuite, toute la saison des classiques. Enfin, les classiques flandriennes. Sur les Ardennaises, on verra peut-être un jour.
Il a déjà fait le podium à Liège.
L'Estrade Bianchi, il y est souvent aussi. Et puis derrière, il coupe un peu et il revient pour le Tour de France.
Oui, mais...
Alors, les années précédentes,
c'est bien ventilé tout ça.
Ouais. Et la fin de saison, il est aussi présent. On l'a vu aux Jeux Olympiques l'année dernière. On l'a vu au Championnat du Monde il y a 2 ans où il s'est emparé du maillot de champion du monde. C'est un peu comme Pogacar. C'est un garçon qui est là du début à la fin.
Sur la route, il va faire 42, 43 jours à peu près de course. Et effectivement, le reste, c'est.
Ouais, c'est pas beaucoup moins de jours de course que Jonas Vingegaard, par exemple.
Non. Il fait la route. Tu fais un choix effectivement particulier.
Un potentiel vainqueur du Tour.
Il a surtout, c'est qu'il on a l'impression qu'il est souvent là parce qu'il performe à chaque fois, mais il a capacité à courir quel que soit le guidon et à performer. C'est ça qui est impressionnant.
Lui, à part
en VTT où c'est compliqué parce qu'il se retrouve souvent loin à sa ligne de départ, et on sait que c'est primordial, mais il y arrivera un jour, parce que c'est un garçon qui est fait pour ça. Il ridiculise ses adversaires en cyclocross, même le championnat du monde, il le domine. C'est-à-dire que c'est un garçon qui va pas faire la prépa, et dès qu'il arrive, les autres, ils disent comment on va faire pour faire deux, quoi. Et sur la route, aujourd'hui, je crois qu'un, pourrait lui poser la question, il nous le dirait pas comme ça, parce qu'il passerait pour un prétentieux. À mon avis, il savait qu'il allait gagner à 10 bandes de l'arrivée. il a géré parfaitement, il a jamais paniqué.
Ouais, et puis on l'a pas vu le bout de son nez, il était toujours en deuxième rideau.
Je suis pas sûr qu'il soit persuadé de gagner.
Non, contre Pogacar à ses côtés, évidemment, t'es jamais sûr de gagner.
Je pense que quand il a vu que Pogacar mettait aucune cacahuète dans les montées d'avant, il a dû se dire ok, ça sent déjà un petit peu meilleur. Moi, je tire un coup de chapeau à son équipe qui lui laisse faire le cyclocross, qui lui laisse faire le VTT.
C'est un peu le patron de l'équipe quand même.
Ok, mais le VTT, ça peut engendrer pas mal de risques. Potentiellement, tu peux hypothéquer la saison sur route.
Nové Mesto, dernière manche de Coupe du Monde, il a fait un vol plané au départ du tour
cette année. Oui. Donc quand même, chapeau à cette équipe qui, ok, c'est peut-être un des patrons de l'équipe, mais il le laisse faire quand même.
Alors, il le laisse faire et il le laisse aussi de temps en temps ne pas performer sur le Tour de France. Il est venu à plusieurs reprises sur le Tour, n'a pas toujours réalisé ce qu'on espérait de lui, même si effectivement en 2021, il avait fait victoire d'étape et maillot jaune, avec, on s'en souvient, le maillot de l'équipe de son grand-père. Hein, c'était à Mur de Bretagne, me semble-t-il. Depuis, Pierre-Yves, ça n'a pas toujours été un succès garanti sur les routes du Tour, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein.
J'ai quand même remonté sur mes petits doigts 60 étapes. Que tout le monde attendait
beaucoup de doigts.
Une victoire. Doigts, toi, dis donc.
Non, mais j'ai compté 6 fois sur mes doigts. Tout le monde attendait.
On savait que t'étais à peine normal. Mais là, 62,
ce qui arrive est un mille pattes.
Non, mais qui aurait imaginé le jour de cette victoire à Mur qu'il mettrait
4 ans.
Eh oui, 60 étapes, donc pour, alors qu'on lui promettait quand même des bouquets à l'appel. Il s'était imposé, donc, dès sa deuxième journée sur le Tour de France, c'était le 27 juin 2021. Et il avait 26 ans, il arrivait avec une forte réputation de champion, on le disait, hein, né sur les terres du cyclocross et puis de cette génétique que tu évoquais, Jérôme, avec le papa néerlandais Adri et puis le grand-père limousin Raymond, aux excellentes dispositions. Et c'est vrai que la suite a été plus complexe, puisqu'en 2022, il avait traversé comme un fantôme, la grande boucle, malgré une 5e place au chrono de Copenhague, et il avait abandonné le jour de la mythique étape du Granon. Et à partir de 2023 et l'an passé, il se concentre quand même sur son rôle de poisson pilote.
Il en a offert quand même un paquet à Philipsen.
Il se concentre sur le rondeur et parfois équipier. Quoi.
Cette victoire sur les deux dernières années, il n'est pas toujours le poisson pilote. J'avais eu l'occasion par le passé de faire aussi une explication précise. Ce n'était pas toujours le cas, mais lui, en tout cas, n'avait jamais levé le bras. Mais ce paradoxe, il a aussi une explication. Van der Poel, c'est pas le plus grand fan du Tour de France. C'est une course qui ne me passionne pas. Il l'avait dit il y a quelques mois, chez nos confrères belges de Sporza. À part essayer de gagner des étapes et de porter le maillot jaune, il n'y a pas grand chose à gagner pour moi dans le Tour. Je préfère faire 5 courses où je suis en mesure de gagner que 20 étape où je ne suis pas en compétition pour la victoire la moitié du temps. Ouais, il s'ennuie un peu sur le tour.
C'est-à-dire qu'il fait partie de la caste de ceux
qui ont envie de s'amuser sur les courses.
Et il a envie de gagner, c'est un joueur.
S'amuser aussi, c'est pour ça aussi.
Oui, c'est vachement plus amusant de faire du vélo quand tu gagnes, je peux te le dire. Parce que quand tu fais du vélo, beaucoup sans gagner, tu t'amuses vachement moins, je peux te dire. Tu te marres beaucoup moins sur ton vélo.
Et il fait partie de ceux-là qui, quand ils sont au départ d'une course, quelle que soit la course, à part une étape de montagne, tu es obligé de le mettre favori. Ouais, tu peux gagner sur tous les terrains, Mathieu Van Der Poel. Oui. Et il n'est pas très montagne parce qu'il n'y bosse pas et je pense qu'il gère son rapport.
Un peu...
Parce qu'en perdant un peu de poids, attention les yeux, dans une échappée partant de loin.
Je ne suis pas complètement d'accord avec toi. Par contre, en chrono. Alors je pense qu'il.
Alors on a toujours dit quand même que les gens qui étaient bons au chrono, s'ils arrivent à gérer le bon poids, peuvent être bons en montagne.
Oui, tu peux. Là, j'ai du mal à y croire, mais je pense qu'il monte sur son vélo de chrono uniquement quand il y a un chrono sur une course. Je pense qu'il met jamais ses fesses dessus à l'entraînement, mais quand on voit quand il a envie, notamment sur le dernier Dauphiné où le chrono était quand même dur. Bah quand t'as des chevaux, hein, en chrono, ça marche comme ça. Et il fait un super chrono au Dauphiné. Voilà, c'est pas une discipline qui l'intéresse non plus. Quand il a envie, ça va. Sinon, il fait dans les etc. Mais quand il est autour la 60 étapes où il a pas gagné, par contre, c'est quand même un maillon ultra important de cette équipe Alpecin de Koenig pour Philipsen et d'autres efforts invisibles qu'on voit pas.
C'est un formidable équipier.
Bien sûr. De replacer Philipsen, de boucher un trou, des trucs qu'on voit pas à la télé des fois. Donc, il vient pas sur une course où il fait de la figuration complète, où il sert à rien du tout. Il a peut-être pas le résultat au bout, mais il a été vraiment utile à son équipe.
Mais à ce niveau-là, c'est comparable avec Van Aert aussi, qui se transforme en équipier, qui aurait pu aller en chercher plus, très certainement, sur le Tour de France aussi.
On en revient toujours à comparer les deux.
Bien sûr. Ça fait un moment que Van Aert
y en a un qui a pris le dessus sur l'autre. Hein, ouais. Mathieu Van Der Poel, notamment en termes de victoire dans les monuments.
On a de la chance quand même. Je pense qu'avec le recul là maintenant, cette arrivée vient de se passer. Pitié. On a quand même une chance formidable, c'est d'avoir ces coureurs qui font toute la saison et qui sont là aujourd'hui sur une étape du Tour.
Ce qui n'était plus le cas pendant des
années. Rappelle-toi Christophe et rappelons-nous, il y a quelques années, on n'avait pas le champion du monde qui gagnait tout, qui attaque avec le deuxième du classement général qui a gagné déjà deux tours, qui se met une peignée dans les monts du Boulonnais. On voyait pas ça avant.
On a eu un Sagan quand même qui était un peu.
Oui, mais Sagan il était pas en phase de gagner le tour. Eux ils vont gagner le tour. Hein. Non, c'est
mais,
pas pareil.
Ouais,
hein.
Non, mais là on le compare à Van der Poel.
Non, mais Van der Poel. Mais je te parle aussi de cette génération qui tourne autour. Mathieu Van der Poel se nourrit aujourd'hui de sa victoire. Pourquoi? Parce qu'il faut battre Tadej Pogacar. Aujourd'hui, la victoire, elle est encore plus belle parce que c'est Pogacar qui le bat. Avec Vingegaard troisième, avec dans ce groupe-là, Remco Evenepoel, qui est aussi un phénomène. Je veux dire, c'est ça qui les nourrit. Une génération incroyable.
On a une génération incroyable, ça, tout le monde reconnaît. Et si on pouvait avoir un petit Français là-dedans.
On n'a pas été ridicule aujourd'hui côté
Français. Je trouve qu'ils sont tellement. On parle de Van der Poel, de Pogacar, de Vingegaard. Ils sont tellement énormes qu'on. On pense un peu moins à Remco Evenepoel, qui est un phénomène. Et lui, il est vraiment tombé dans la mauvaise génération, parce que c'est un phénomène incroyable et il passe un peu inaperçu finalement. Alors que c'est un phénomène de fou, mais les autres sont encore un ton au-dessus. C'est incroyable.
Mathieu Van der Poel, évidemment, ravi après sa victoire tout à l'heure. Et il a toujours, on se faisait la remarque, ce visage
bouille de poupon.
Il a 30 balais, mais il a une tête de bébé.
Il rase les cheveux en plus.
Belle gueule, évidemment.
Il a les cheveux très courts là. Donc
il a les cheveux très court, mais il a les idées larges et surtout les épaules larges et les épaules. Mathieu Van der Poel, ravi, il avait misé sur ce Tour de France, il savait qu'il pouvait faire quelque chose, on l'écoute.
Ouais, ça fait du bien. Ouais, je savais que ce tour, il y avait des chances pour moi. J'ai fait un front approche aussi avec le Dauphiné. Les dernières années, c'était pas vraiment bien mon Tour de France. Donc, comme je dis, c'est un rêve pour l'équipe et aussi pour moi pour commencer comme ça. Donc, ouais, on espère qu'on peut encore gagner des étapes, mais je pense que pour commencer, ça compte déjà pas mal.
Ça compte déjà pas mal pour lui, pour sa formation Alpecin. On écoutera dans un instant le patron de l'équipe. Il peut en remporter d'autres. Il y en a d'autres qui sont à sa portée. Oui, il y a un paquet dans ces 10 premiers jours de course. Demain.
Pas demain, mais après-demain. Direction Rouen, là, le final, ça ressemble un peu à l'étape d'aujourd'hui, hein, d'ailleurs, et on dit souvent que c'est un mini Liège-Bastogne-Liège. Donc celle-ci lui conviendra très très bien.
La côte de la Grand-Mare, qui va être une dernière. La Grand-Mare. Quartier rouennais, faut y monter là-haut et ça ressemble à ce qu'on a vu aujourd'hui dans les monts du Boulonnais. Et évidemment, il y a aussi Mur de Bretagne,
il y a Vire, il a encore de quoi faire. Hein. Moi, j'avais
avec deux passages à Mur, la dernière fois.
J'avais dit au moins deux victoires d'étape à la première journée de repos pour Mathieu Van der Poel. Ça sera peut-être plus que ça. Hein.
Nous verrons cela. On va écouter son papa, Adrie Van der Poel. On parle toujours de son grand-père, mais son père.
Disons qu'on peut plus faire parler grand grand-père champion. Là pour le coup.
Oui, non, mais on parle souvent d'eux. Je dis pas on fait parler. Non, mais il est bête celui-là. Adrie Van der Poel, donc deux fois vainqueur sur les routes du Tour de France et qui a également remporté le Tour des Flandres, qui a également remporté Liège-Bastogne-Liège et qui est là lorsque son fils est en capacité de l'emporter. On l'écoute.
Moi, je pense qu'il doit être très content, normalement, sans accident. Lui, il a gagné une étape maillot jaune. L'équipe, elle a gagné deux étapes, deux jours de maillot jaune. Donc, il faut profiter maintenant, à le moment.
Voilà, Adrie Van der Poel, juste une petite réponse rapide du papa.
On l'avait vu au village.
C'est pas un causant. De toute façon, ça a toujours été. C'est quelqu'un qui. C'est un taiseux. Grand talent et. La classe de son fils sur le vélo, pour le coup, il l'a hérité de son père. Hein. Adrie était sur un vélo, quel que soit le vélo,
il parlait avec les jambes et les résultats. C'était beau. Tout l'inverse de toi, Jérôme.
J'avais même pas de style, moi.
Si t'étais assez stylé, on te reconnaissait quand même quand tu arrivais.
Ah, c'est pas parce qu'on le reconnaît qu'il y a du style. Hein.
C'est un style particulier.
Voilà.
VDP qui est en plus le seul, ou quasiment le seul dans le cyclisme actuel, à pouvoir battre Pogacar. Il l'a battu dans Paris-Roubaix, alors que Pogacar avait fait un véritable objectif. Aujourd'hui, est-ce que Poggi avait vraiment l'objectif de s'imposer? Là, la question peut se poser. Jérôme, tu penses que Pogacar a livré le sprint, mais plus pour marquer ses adversaires que pour s'imposer?
Alors, le sprint, il l'a fait à fond, c'est sûr. Il l'a pas fait à 50%. Mais s'il avait voulu gagner l'étape, il aurait couru différemment. Il aurait attaqué soit dans une des montées précédentes, la montée finale, soit il aurait attaqué au pied de cette dernière montée. mais il sait très bien, Tadej Pogacar, qu'en vitesse pure sur une arrivée comme ça face à Mathieu Van Der Poel, il est battu. Donc il aurait attaqué plus tôt pour épailler Mathieu Van Der Poel. Moi, je pense qu'il voulait pas prendre le maillot jaune et du coup, il voulait pas gagner. Après, il se serait pas privé si Van Der Poel allait coincer dans le sprint. Il allait pas freiner pour faire deuxième non plus. Mais s'il avait vraiment voulu gagner l'étape et prendre le maillot jaune, il aurait couru différemment.
Il a déclaré qu'il jouait pour la gagne, mais il a sprinté pour la gagne et il dit qu'il a eu peur aux 400 mètres.
Alors voilà, peur de gagner.
Il s'est fait un peu serrer pour aller se faufiler dans la roue de Van Der Poel.
Mais bien sûr que dans le sprint, il va pour la gagne. Mais si vraiment Tadej Pogacar, avec ce qu'il nous a montré ces dernières semaines, et notamment au Dauphiné, quand on voyait Vingegaard qui n'était pas capable de tenir sa roue 15 secondes sur une accélération, s'il fait ça dans la dernière montée à 8 km de l'arrivée, il va finir tout seul certainement. Ou en tout cas, il aurait épaillé Mathieu Van Der Poel. Donc pour moi, il n'avait pas vraiment l'envie de prendre le maillot jaune. Et du coup, s'il ne voulait pas prendre le maillot jaune, il ne fallait pas gagner l'étape.
Depuis le début de l'année, on est à 5-3 en faveur de Tadej Pogacar. Milan-San Remo, Paris-Roubaix et donc aujourd'hui pour Mathieu Van Der Poel. Du côté de Pogacar, il y a eu le Tour des Flandres où il est premier et troisième Mathieu Van Der Poel. Il y a eu le Dauphiné, la première étape. Et puis les deux autres victoires sont également sur le Dauphiné. Et puis le général du Dauphiné. En fait, sur les
étapes pures,
on est à 4-3, c'est serré quoi.
Il y a quasiment match nul sur les terrains pour les deux.
Oui,
quoi.
Ouais, exactement.
Et les victoires sont peut-être elles sont aussi...
Milan-San Remo, il va avoir vraiment du mal.
Milan-San Remo, Paris-Roubaix, quand même, c'est les deux monuments qui manquent à Pogacar.
Mais moi, je pense qu'avec le recul, on aura, pour l'avoir eu cette saison, déjà quelques semaines après, je pense qu'on a assisté à un duel qui est à mettre dans l'histoire du sport quand ils sont tous les deux sur Paris-Roubaix. Parce que dans l'histoire du cyclisme...
Rappelle-toi, c'est pour ça, tout à l'heure, on avait la discussion sur les retombées que peut créer Paris-Roubaix, mais rappelez-vous de toute ce buzz ce autour de ce Paris-Roubaix, la présence des deux, et les audiences extraordinaires qui ont été réalisées par la télévision.
Les audiences extraordinaires. Le buzz, il n'était pas parce que Van Der Poel était au départ de Paris-Roubaix. Pogacar était au départ de Paris-Roubaix. Donc le buzz, c'est là.
Il s'est retrouvé au départ de Paris-Roubaix. Là, il se retrouvait face au maître des pavés, quand même.
L'aspect économique, on a assisté ce jour-là à un très grand moment de sport. Avec le recul, je pense.
Performance physique
et ce duel entre deux énormes champions. Mathieu Van Der Poel est en train de rentrer encore un peu plus dans la légende de notre sport. Vous voulez que je gagne au tour pour être un grand? Je viens, je gagne, je prends le maillot. Voilà ce qu'il est en train de faire. Franchement, ce duo-là, comme tu le dis, Christophe, il y a juste la montagne où ils ne peuvent pas lutter.
Oui.
Ce jour-là, c'était énorme.
Et j'en rajoute une couche quand même par rapport à ta version, Jérôme, où tu dis « je crois qu'il n'avait pas tellement envie de gagner finalement Pogacar aujourd'hui et de prendre le maillot jaune ». C'était potentiellement la centième victoire professionnelle.
Il a dit au Dauphiné qu'il ne voulait pas gagner parce qu'il voulait gagner sa centième victoire sur le Tour. Mais il va l'avoir, sa centième victoire. T'inquiète pas, il va avoir la 100e et la 102e avec.
S'il avait pu l'avoir aujourd'hui, je pense qu'il
aurait... Non.
Est-ce que c'est pas aussi une question, GG, de pas s'éparpiller, de quand même se dire, et si j'en faisais le moins possible, rappelle-toi au Pays Basque, il attaque très vite, il le sort, l'autre il roule pas, et puis au final on sait ce qui s'est passé au classement général. Voilà. Donc je pense qu'il a quand même, et moi ça me rassure, il a dans la tête de se dire, je vais pas faire n'importe quoi, le but c'est de gagner le Tour.
Bien sûr.
Et donc ça dure 3 semaines. Et je pense que ça nous ramène un peu en arrière au vrai Poggi qu'on a connu, plutôt que celui qui a fait ses grandes déclarations dernièrement.
VDP qui prend donc le maillot à son équipier, Jasper Philipsen, qui était en jaune hier. Ça fait quand même 2 journées incroyables pour les Alpécines, 2 victoires d'étape, 2 maillots jaunes avec 2 coureurs différents. C'est plutôt tout bénef pour le manager de la formation belge, Philippe Redoft. On l'écoute.
C'est évidemment incroyable. C'est un peu inattendu, évidemment, mais on savait qu'on était prêts. Avec la victoire d'hier, évidemment, pour l'esprit d'équipe, ça a donné un boost supplémentaire. Et on savait que Mathieu était en pleine forme, il l'a montré aujourd'hui.
Il l'a montré aujourd'hui. 2 victoires d'étape, 2 maillots jaunes, le tour est déjà réussi. Désormais, c'est tout bénef pour les Alpécines qui vont courir sans pression parce que leur tour est déjà réussi.
Ah, bah là, il est plus que réussi leur tour. Mais après, comme on dit, jamais 203. Qu'est-ce qui va se passer demain
L'appétit vient en mangeant.
Exactement. C'est le début de tour que toutes les équipes rêveraient de faire, ne serait-ce même que de gagner juste une étape et de porter le maillot jaune. Voilà, eux, ils se le passent dans l'équipe. Tu peux difficilement faire mieux que ça. Hein. Deux étapes. 2 victoires et 2 maillots jaunes avec 2 porteurs différents.
Petit, parfait. Petit bémol dans l'attitude de ses équipiers. J'ai vu 2-3 images aujourd'hui, notamment de Ricard, leur équipier très costaud, tu sais, qui déménage un peu. Pas tomber dans l'arrogance quand on est comme ça, parce que la route. J'ai vu 2-3 images qui, si j'avais été dans le peloton, ça m'aurait pas plu du tout. À dire aux autres, bah, vous venez quand il y a du vent, vous êtes à notre hauteur, et quand il y a moins de vent, bah, allez-y, venez, venez. Enfin, chambre pas, mec. T'as deux super champions dans ton équipe, s'appellent Van der Poel et Philipsen. Ricard est un bon coureur, mais. Pas tomber dans le... En tout cas, les leaders ne sont pas arrogants, donc eux n'ont pas à l'être. Ils sont équipiers, ils doivent faire leur travail.
Parfait, voilà donc ce que l'on pouvait dire ce soir sur la victoire de Mathieu Van Der Poel, nouveau maillot jaune de ce Tour de France. Il fait aussi bien qu'il y a 4 ans. Combien de temps va-t-il pouvoir le conserver, ce maillot jaune? Ben, on verra, peut-être jusqu'au chrono.
Il avait gardé une dizaine de jours, non, la première fois. Il l'avait gardé longtemps. Hein.
Il l'avait perdu dans les Alpes.
Ouais. Donc là, ce sera peut-être plus difficile. Il y a le chrono mercredi, mais il y aura peut-être d'autres occasions d'aller le chercher. Bon, et s'il veut se battre pour le garder, comme tu le disais, il peut peut-être le faire.
Ouais, puis les écarts seront peut-être un petit peu différents d'ici mercredi aussi.
Non. Très bien. Le laisse des Français.
Ah, ce serait pas mal. On va en parler des Français. 19h27, on va aussi évoquer la bagarre pour le classement général. Vingegaard, Pogacar, ils sont là. Et aujourd'hui, personne ne s'est fait coincer dans les bordures. Tous les hommes de la troisième place sont dans le coup. On en parle dans un instant dans l'After Tour sur RMC. À tout de suite.
RMC, l'After Tour.
Christophe Cessieux.
En direct de Boulogne-sur-Mer, sous la pluie, elle a épargné quand même la fin de l'étape, même si les coureurs ont quand même pas mal pris d'averse en début d'étape. Ils étaient tous bâchés, ensuite ça s'est levé, et puis là, ça se recouvre, mais c'est normal. Le François Hollande du Tour de France sera demain sur la moto. Je veux parler de Jérôme Coppel, qui va donc prendre cher une nouvelle fois, comme d'habitude.
Oui, on va peut-être changer avec
lui. Non, j'ai proposé mes services, parce que mon petit chat, là, il est un peu malade. Et j'ai peur qu'il pète en vol. Donc je vais sûrement, moi, prendre la moto demain.
Oui, c'est une habitude quand même sur le Tour de France.
Et puis moi, je suis solide quand même. Enfin, je suis solide sur mes appuis. J'ai un peu de marge. Même la pluie, ça va pas me passer à travers. Lui, t'as vu comment il est épais, il va être trempé. Même les os vont être trempés. Moi, ça risque pas.
C'est sympa quand même de sa part. C'est un bon équipier.
C'est le premier beau geste de la course.
Quand vous étiez coureurs tous les deux, vous étiez équipiers tous les deux ou il y en avait un qui était au service de l'autre?
Il n'y avait pas de leader, je te le dis tout de suite.
En plus, c'est ça. On n'était pas leader.
Après, s'il y en avait un qui devait faire le boulot pour l'autre sur le talent, j'allais plutôt m'y mettre en premier. Quand même. On va pas. Mais on a passé beaucoup de temps ensemble dans les pioles, en stage, etc. Mais on n'a jamais eu. J'ai jamais eu l'occasion de défendre un maillot ou quelque chose avec Gégé. Je l'aurais fait avec grand plaisir, évidemment. Mais
on n'a pas beaucoup couru ensemble.
Non, parce qu'on se chiffonne quand même à l'antenne. Ouais. Mais on s'aime beaucoup. Hein. On est très potes dans la vie. Ouais. Et on a cette histoire commune avec l'équipe YAM. Et on a aussi beaucoup de valeurs communes dans le peloton. C'était rare, hein, on n'était pas beaucoup avec copains, mais nous, on faisait partie des mecs qui s'entendaient bien.
Très bien, revenons donc à nos moutons, revenons à ces favoris du Tour de France qui ont montré le bout de leur nez aujourd'hui dans le final. On a évoqué Pogacar qui a disputé le sprint qui a été battu par Van Der Poel. On va peut-être parler de Vingegaard qui, comme hier, eh bien, a montré qu'il était en pleine forme. Aujourd'hui, il est battu par Pogacar et par Van Der Poel. Il termine quand même troisième de l'étape. Il concède pas beaucoup de terrain en plus à Pogacar, même si évidemment dans ce genre de topographie, Pogacar a un avantage certain au niveau du punch par rapport à Vingegaard. Mais enfin, il est là, il est dans le coup.
Même mieux que ça, il perd pas de temps. Et alors, surtout,
2 secondes de bonif.
Sur les bonifs, d'accord, il fait quand même troisième de l'étape, mais dans le sprint, en plus, il doit contourner à un moment donné un autre concurrent, donc il fait quand même plus de chemin, il revient dans la route Pogacar. Donc sur un effort comme ça, qui lui convient pas trop, sur un sprint en haut d'une montée face à Van Der Poel ou Pogacar, franchement, il m'a fait forte impression, Jonas Vingegaard. Ça, c'est pour le résultat brut, mais après, il y a son attitude dans le peloton. Toujours bien placé comme hier, et en plus, il a été de nouveau à l'attaque. Ouais, on sent qu'il est arrivé le couteau entre les dents. Il n'a rien envie de laisser à Tadej Pogacar, et il veut le laisser sous pression. Et ce que tu disais tout à l'heure, Gégé, c'est peut-être aussi pour ça que Pogacar veut pas trop s'éparpiller, parce qu'il se dit, ok, c'est peut-être pas le Jonas de l'année dernière. Quoi.
Non, c'est pas le Jonas de l'année dernière, c'est un garçon qui est arrivé avec des ambitions et qui, aujourd'hui, montre qu'il est dedans. Quoi. Il a les voyants au vert, son équipe est très costaud, elle a encore assumé aujourd'hui comme il faut. On a vu un Matteo Jorgensen assez costaud. D'ailleurs, je ne sais pas si on entendra les déclarations de Vauclin, qui est une Vauclin, c'est un peu plein de la non-collaboration, sauf que Jorgensen, il est là pour faire gagner le Tour de Vingegaard. Donc, il ne veut pas le mettre dans le pétrin d'avoir à gérer un double leadership. Mais faut pas oublier non plus, et là je viens à l'inverse de ce que je dis depuis le début, c'est que sur la première étape du Dauphiné, c'est Vingegaard qui fait tout péter, qui attaque, et ouais, voilà. Donc, méfions-nous, c'est pas, on peut pas tirer de conclusion. Ce qu'on sait, c'est que Vingegaard, il est dans le coup, il est pour le moment très impliqué dans la course, et que, bah, il laisse pas de marge, et qu'il peut, commencer à instituer un espèce, installer un espèce de, pas de doute, hein, mais méfions-nous quand même.
Non, mais au moins dans son attitude, peu importe le résultat à Paris, il n'aura rien à regretter.
Il n'aura pas de regret.
Parce que d'habitude, la première semaine, il restait un peu planqué, il attendait vraiment son terrain, la haute montagne, pour passer à l'attaque. Là, s'il reprend un tir par Tadej Pogacar, on ne pourra pas dire, ah oui, mais si Visma avait tenté une bordure et si Vingegaard voilà, à telle étape avait essayé, ils n'auront rien à se reprocher. Après, ça se fera à la pédale et le meilleur gagnera le tour.
Ouais. C'est ça.
Que dire des autres ceux qui se bagarrent pour la troisième place, a priori.
Ceux qui se bagarrent pour la
Hier, ils se sont fait beaucoup avoir.
Moi, je suis quand même agréablement surpris par le début de tour d'Enric Mas.
Ouais.
Hein, attention, Enric Mas. Mmh. Aujourd'hui, ceux qui sont revenus un peu plus dans le game,
12e de l'étape, dans le même temps que.
Mais il est devant. Ouais, ouais. Sur une étape comme ça, on voit Mas dans le deuxième groupe, on n'est pas surpris. Là, il est devant. Les deux qui sont revenus de derrière et qui nous ont un peu plus rassurés aujourd'hui, Florian Lipovic et Primoz Roglic de chez Bora, puis surtout Remco Evenepoel qui a eu qui nous a fait un peu peur dans le premier coup de pétard, qui était dans le dernier du premier groupe, mais qui était pas très bien placé. Ensuite, on a vu son équipe super impliquée se replacer. On n'a pas vu Remco en difficulté et surtout sur la dernière bosse, on l'a vu se replacer, on l'a senti à l'aise. Donc oui. Là, il est plutôt rassurant, Remco Evenepoel, sur cette étape. Le seul qui avait gagné hier et qui a perdu, pour moi, à mes yeux, et après je vous laisse la parole, les garçons, c'est Tobias Johannessen, qui aujourd'hui, sur un terrain qui est plus à sa convenance que celui d'hier, le jeune qui peut créer la surprise, hein, qui a déjà fait troisième d'un tour de l'avenir, qui est un très bon coureur d'avenir, lui aujourd'hui, il n'est pas dedans.
Il y a Johannessen et il y a O'Connor qui avait gagné hier, mais qui a chuté, qui a reperdu un peu de temps aujourd'hui, donc ça sent quand même pas bon. Mais les forces, du coup, pour la troisième place se sont rééquilibrées un peu.
Ils sont 26 à avoir terminé dans le même temps. On peut citer donc Lipovic, Kelmose, Roglic, Gall, Bourman, Paoles, Jensen, Evenepoel, Guillaume Martin, Almeida, Hirschi, Buitrago, Mas, et voilà pour les principaux favoris, sans parler évidemment de Vingegaard et Pogacar.
Félix Gall, qui a quand même fait un beau final, hein, qui doit être costaud, parce que quand on a dans le direct le placement de Félix Gall à 20 km de l'arrivée, c'est le dernier du peloton. Il a dû en doubler un paquet des coureurs.
Après, ce coureur-là, il était peut-être pas favori pour la troisième place, mais Carlos Rodriguez, ça fait quand même deux jours de suite qu'il perd un peu. L'effet d'Ev Brailsford se fait pas encore ressentir.
Oui,
on va attendre. Mais
il y a un Ineos dans le final devant, non?
Il y avait Axel Laurent.
Non, il a explosé. Il n'y a pas d'Ineos. Dans les 26 coureurs, il n'y a pas d'Ineos.
Il n'y a pas d'Ineos.
C'est quand même une petite info, parce qu'à une époque, on aurait bouffé du Sky.
C'est la descendante de la formation Sky qui a quand même écrasé le tour pendant des années.
Les marginal gains sont tombés aux oubliettes, là.
Marginal gains, exactement. Alors, on a évoqué les leaders du classement général. Évoquons aussi les Français, Pierre-Yves.
Oui.
Ces Français qui nous ont régalés aujourd'hui. Ils sont combien, là, dans le top 10 aujourd'hui?
Ils sont 4, puisque Romain Grégoire est 4e, Alaphilippe 5e, Pareil Peintre, Aurélien 7e et Kevin Vauclin 8e, et tu le soulignais, Jérôme, tout à l'heure, on pouvait même pousser à la 11e place avec Alexandre Delettre de l'équipe Total.
Oui, et puis on va chercher, puisqu'ils sont tous dans le même temps, Guillaume Martin est 16e, et le dernier Français, c'est Quentin Paché qui est 26e. Ils sont tous dans le même temps, donc ça nous fait quand même un paquet de Français.
Ouais, si on veut se faire plaisir et que le petit délice du soir, on peut aussi lire le classement général, hein, parce que dans le classement général, on a des coureurs français très bien placés, donc c'est une. Pour moi, aujourd'hui, ils ont quand même fait un très beau truc. Hein. Ce soit Romain Grégoire qui, à mon avis, a un souci de confiance dans les derniers mètres, parce qu'il est pas bien positionné pour son sprint.
Il l'a Julien, dit
d'ailleurs. Ouais, Julien est là.
On va l'écouter. On va l'écouter. Vous voulez qu'on l'écoute, Romain Grégoire?
Ah oui.
Écoutons Romain Grégoire, premier Français de cette deuxième étape. Il termine 4e après s'être montré et après avoir fait travailler son équipe, la Groupama FDJ, qui était dans le coup aujourd'hui.
Ils ont très bien travaillé. Louis Saski a fait un travail incroyable et Cyril Barthes aussi.
Romain Grégoire, 4e de l'étape.
Bah, 4, c'est bien, mais c'est pas une victoire, quoi. Donc forcément déçu, surtout que je me sentais vraiment bien. Avec tout le boulot qu'ont fait les mecs pour me placer idéalement au pied de la première des trois dernières difficultés, je m'interdisais de reculer et de péter. Et franchement, j'étais plutôt presque à l'aise, quoi, dans les roues et dans ce groupe. Il m'en a manqué un peu pour vraiment aller dedans dans la roue de Van Der Poel et jouer la gagne, quoi. Là, je pense que, genre, en regardant la vidéo, je vais me dire, putain, mais qu'est-ce que t'as fait? T'as joué placé, c'est pas ça que je cherchais, quoi.
T'as joué placé, c'est pas ça que je recherchais, nous dit Romain Grégoire. C'est vrai, il lui manque un petit quelque chose. Il lui a manqué un petit quelque chose dimanche dernier aussi lors des championnats de France. Il est battu pour le maillot bleu, blanc, rouge. Et là aussi,
c'était pas la même adversité. Et puis, il n'y avait pas eu de, entre guillemets, erreur de placement au championnat de France. Dorian Godon était plus costaud. Là, c'est vrai que tout le monde veut être dans la roue de Van Der Poel et Tadej Pogacar sur une arrivée comme ça. Donc, bien sûr, tu te fais un peu bousculer. Il aura retenu la leçon. C'est le même profil que Mathieu Van Der Poel. Hein, donc, toutes les étapes qu'on a dit tout à l'heure. Et ça sera de nouveau coups humains pour Romain Grégoire. Il a pris de la confiance. De nouveau, l'équipe Groupama FDJ fait une super étape, hein. Cyril Barthes, tu l'as dit, Lewis Aski, le niveau placement c'était impeccable. Et puis Julien Alaphilippe, bien sûr, on sait qu'une arrivée comme ça, ça lui convient bien. Kevin Vauclin, au-delà de sa place à l'arrivée, de sa 8e place à l'arrivée, de sa 4e place au classement général, sa manière de courir, il a aussi très bien couru.
Il a fait forte impression aujourd'hui, Kevin.
Il a pesé dans le final et d'ailleurs il fait même peur au gros, parce que c'est pas que Jorgensen a peur de Kevin Vauclin pour le classement général, c'est pas à cause de ça qu'il a pas roulé, mais on sent quand même que les équipes étrangères gardent un œil sur Kevin Vauclin.
On lui saute dans la roue dès qu'il prend 2-3 mètres.
Ce qui n'était pas le cas l'année dernière.
Je pense
encore,
que le Tour de Suisse a été pour beaucoup.
Bien sûr.
Il est rentré dans le Gotha des coureurs capables de faire podium sur une course de montagne d'une semaine.
Psychologiquement, c'est important quand tu te dis je suis capable de rivaliser avec l'un des tout meilleurs coureurs du peloton, même si évidemment les circonstances de course ont fait qu'il a pris beaucoup de temps lors de la première étape et qu'ensuite il a dégueulé un peu tous les jours
face à Almeida,
il a jamais explosé, à la différence d'un
Romain Grégoire.
Grégoire par exemple, qui lui aussi a été leader de ce Tour de Suisse. Vauclin, ça peut avoir déclenché quelque chose,
c'est certain. De toute façon, les coureurs cyclistes marchent à la confiance. Ça vaut pour les sprinteurs, ça vaut aussi pour les coureurs comme Kevin Vauclin qui vise le classement général. Quand tu fais podium d'une course World Tour, quand tu portes le maillot jaune quasiment toute la semaine, bien sûr que tu prends confiance. Tu te rends compte que t'es pas plus mauvais que les autres ou que les mecs des équipes étrangères. Donc bien sûr que tu prends de la confiance. Et puis là, il est un peu sur son nuage. Je veux dire, il voltige au championnat de France. De nouveau, il a pas eu le maillot, mais au chrono, il marchait comme un avion. La course en ligne aussi. Et là, il est toujours sur la même forme. Donc, il a encore une bonne semaine là pour se montrer avant la haute montagne. Je pense qu'on va encore voir du Kevin Vauclin à l'avant.
Au championnat, il fait deux et il chute. Hein.
Ouais.
Donc, au chrono. Après, je pense que aujourd'hui, ce qu'il a mis en confiance et ça dure depuis un moment maintenant sur ce genre de terrain, c'est qu'il a fait quand même 2x2 de la Flèche Wallonne et derrière cette année. Un Tadej Pogacar intouchable. Donc, c'est quelque chose, quand tu fais deux de la Flèche Wallonne et que t'as un pétard à 10% de 800 mètres dans le final d'une course, même si c'est le tour, t'as confiance. Tu sais que si tu marches, quand tu mets une cacahuète, t'as peu de gens qui peuvent te suivre. Donc, Kevin Vauclin, ce qui a changé par rapport aux saisons précédentes et son directeur sportif que je connais bien, Didier Rousse, me disait, il a besoin de gagner en régularité, de prendre confiance en lui, d'être capable de rééditer ce genre de performance sur toute une année, toute une saison, mais aussi sur une course plus longue. Et c'est ce qu'il a fait au Tour de Suisse.
Ça va
l'aider jusqu'à la fin du tour.
Sur le Tour de France, il remporte la deuxième étape.
Il avait disparu la première étape déjà.
Alors, il explique qu'il avait aussi été sélectionné pour les Jeux Olympiques et que du coup, ça l'a un peu perturbé.
Oui,
parce qu'il s'est dit, faut que je sois quand même au niveau pour les Jeux. Quoi,
et puis l'an dernier, c'était son premier Tour de France. Donc, t'arrives dans cette machine à laver qu'est le Tour. Il faut aussi digérer tout ça. Les trois jours avant, les présentations des équipes, les attentes des fans, etc., etc. Là, il sait où il met les roues quand il arrive en 2025 sur le tour.
On va l'écouter, Kevin Vauclin.
Puis on pourra continuer à parler de lui demain, puisque Manu Huber sera notre invité.
Exactement, le patron de l'équipe Arkea BNB Hotel, qui viendra nous parler des difficultés de son équipe, mais qui peuvent peut-être justement un peu disparaître quand l'un de ses leaders est en train de réaliser un tour.
Ça ne peut que aider,
même si, a priori, Kevin Vauclin ne sera plus membre de l'équipe Arkea.
C'est pas fait. Il prouve un savoir-faire. Tu peux aussi vendre un savoir-faire à un partenaire.
Tu sais fabriquer les champions. Kevin Vauclin, qui finalement a aussi fait changer le regard que les autres avaient de lui. On l'écoute tout de suite.
D'être déjà dans ce groupe, c'est déjà exceptionnel. Mais pouvoir vraiment me battre pour la victoire, peut-être presque le seul à attaquer plusieurs fois, bah ouais, c'est sûr que c'est juste exceptionnel. Je pense que je m'en rendrai peut-être plus compte ce soir, parce que je suis encore dans l'euphorie et juste l'envie de gagner une course. Maintenant, enfin, réussir à garder cette forme tout au long des 10 premiers jours surtout. Et après, on verra comment ça va se dérouler. Mais ouais, je suis plus que satisfait et on court vraiment à l'avant aussi. C'est quand même plus facile pour avoir les jambes dans le final quand on est vraiment bien placé, qu'on fait pas d'efforts inutiles. Donc non, faut qu'on reste sur cette lancée.
Voilà, Kevin Vauclin, quatrième au classement général derrière Van Der Poel, Pogacar, Vingegaard. Quand même, quand tu regardes ça ouais. Tu es fier de toi quand même.
Il a endossé ce costume de leader de son équipe et il l'assume. Hein, parce que là, aujourd'hui, à l'arrivée, il rend hommage au travail collectif. On ne peut pas dire qu'on a vu une équipe BNB Hotel transcendante et le placer au mieux, mais il garde tout le monde avec lui. Il ne le fait pas solo. Dans le final, il n'y a personne. Quand il se replace au pied de la dernière bosse, il y a encore un peu.
Tu sens qu'il a beaucoup d'attachement.
Il a beaucoup d'attachement. Je trouve que.
Puis l'esprit collectif.
Et l'esprit, ouais. Même si son choix est peut-être fait, on ne sait pas. En tout cas, il est très corporate et c'est très intelligent de sa part.
Et tu dis, il a revêtu le costume de leader de cette équipe. Il a revêtu un autre costume aussi, le maillot blanc. Donc demain, il sera avec une couleur distinctive. Et Christophe, c'est pas arrivé.
Ah, ça fait un moment que ça n'était plus arrivé. Depuis 2018, Pierre Latour avait revêtu le maillot blanc. Donc en 2018, depuis, on n'avait plus de Français. Il faut dire qu'on a eu un certain Pogacar quand même, qui a un peu trusté les maillots blancs pendant des années. Là, il n'est plus en capacité de l'avoir, puisqu'il a dépassé la limite d'âge. Il y a Remco Evenepoel derrière qui a remporté le classement. Pour Vauclin, sera pas facile d'aller le chercher, ce maillot blanc, parce que tu le disais, Evenepoel est encore plus jeune que lui, mais déjà le porter une fois, c'est pas mal, c'est un maillot. Aujourd'hui, c'est un maillot, c'est presque plus un maillot d'avenir, c'est parce que quand tu vois des Pogacar,
c'est les grands, les plus forts, sont
jeunes. Bien sûr.
Parce que l'âge moyen des grands champions s'est abaissé depuis quelques années.
À l'époque de GG, moi, tu passais pro à 21, 22 ans. C'était ta première année pro.
C'est ça, 22 pour moi. Voilà. Ouais.
Maintenant, ils passent
gagne le tour.
Ils font même pas la catégorie U23, la catégorie espoir. Ils passent directement de junior à pro. Paul Sexas, par exemple, voilà, l'année de ses 19 ans, t'es déjà chez les pros. Donc, c'est sûr que ce maillot blanc jusqu'à 25 ans, c'est un peu. C'est pas que ça veut plus rien dire, mais faudrait presque baisser l'âge du maillot blanc, quoi.
Qu'est-ce que tu voulais dire ?
Non, j'avais une petite anecdote croustillante avec. Mais une anecdote très courte. En 2018, j'ai monté l'équipe Vital Concept et donc je me suis rendu parce que je voulais absolument des très jeunes coureurs. Je me suis rendu sur la Classique des Alpes. J'ai vu un petit bonhomme du comité régional de Normandie, bien boulot, bien solide. Il fait quatrième de la Classique des Alpes avec trois grands cols. Hein, pour des juniors, c'est costaud, c'est 120 bornes. Ouais. Il fait quatrième en ayant attaqué au départ, c'était Kevin Vauclin.
Ouais.
Donc ça veut dire qu'il a des grosses capacités à grimper aussi. Et je peux vous dire qu'à l'époque, il n'était pas sec comme aujourd'hui. Hein, c'était
un peu.
Et je m'étais d'ailleurs dit, à l'époque, il fallait aller faire la queue, tu sais, il fallait laisser la place aux grandes équipes. Donc c'était FDJ, G2R, puis toi, le manager de la future petite équipe, tu passais après. Et tout le monde s'était jeté sur Elliott Pierre, à l'époque, qui était un formidable grimpeur qui n'a jamais percé. Et Kevin Vauclin était dans son coin. Puis je dis, mais t'as déjà à signer, avancé avec des équipes. Bon, non, je vais à Bourges. Donc il est pistard hein, à la base. Mais on avait discuté. J'ai dit, écoute, on va monter une équipe, on reste en contact. On va faire un stage l'été prochain. Donc il était venu en stage. J'avais essayé de le prendre. Puis après, il a fait comme ça. Donc évidemment, c'était depuis tout jeune, talentueux et très intelligent. Il avait fait. On avait échangé tous les deux. J'avais dit, la tête est bien faite. Quoi.
Un tout petit mot. On n'a pas le temps d'en parler beaucoup, mais on aura le temps d'en reparler. Julien Lafilippe qui va mieux aujourd'hui, qui termine cinquième de l'étape. On a vu le bout de son nez. Ça nous rassure. Parce qu'hier, il nous avait vraiment inquiété. Pierre-Yves, avec une arrivée avec plus de 6 minutes de différence. Il attendait cette étape pour essayer de se montrer. Il a essayé. Il lui manque encore un peu les jambes quand même.
Il avait expliqué qu'il était malade depuis quelques jours, que ça allait un petit peu mieux hier soir, mais on a entendu à sa voix que c'était encore un peu embrumé et que les bronches étaient prises. Mais c'est vrai que ce qu'il fait dans le final prouve, Jérôme, que ça va mieux. Quand même.
Bah oui, surtout que tu te remets pas d'une maladie du jour au lendemain. Donc il n'est pas encore à 100% de sa forme. Dans la semaine prochaine, il va retrouver lui aussi des étapes qui vont lui convenir et il devrait être encore mieux. Donc sans être à 100%,
100% ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est déjà très bien. Et pareil que pour tout le monde, ça va le mettre en confiance, ça va lui faire du bien.
Dans un instant, nous évoquons la troisième étape de ce Tour de France. Alors, ce sera moins le régal qu'aujourd'hui. C'est une étape pour les sprinteurs. Il va y avoir vent de face.
Peut-être le premier sprint massif.
Le premier sprint massif, oui. Peut-être que Jonathan Mill va enfin montrer.
On va attendre quand même demain, les garçons, parce que le dieu Éole, des fois, prend des décisions qu'ils peuvent nous tromper. Donc, si le vent change de côté, ça peut faire du mal.
Nous verrons ça dans un instant. Il est 19h49. Vous êtes sur RMC. C'est l'intégrale. Non, c'est pas l'intégrale. C'est l'after tour. Parce que là, on est après l'étape. A tout de suite sur RMC.
RMC, 19h20, l'after tour.
Christophe Cessieux.
L'after tour, toujours en direct de Boulogne-sur-Mer, pour la dernière ligne droite de cet after, pour évoquer notamment l'étape de demain. On a eu deux premières journées incroyables dans ce Tour de France.
Jamais 203.
Oui, mais bon, le parcours semble quand même un peu moins propice à la régalade totale.
Il y a Alain Gillot-Pétré là.
Gillot-Pétré nous a annoncé.
Pour l'instant, on a un vent annoncé de nord. Légèrement ouest. Nord, sachant que la direction demain entre Valenciennes et Dunkerque, c'est le nord-ouest. Donc, on a quand même grande chance que ça n'avance pas très vite et que le vent soit défavorable.
Donc ça veut dire
en plus, mais sait-on jamais.
Arrivée tardive. Aujourd'hui,
tu ne vas pas me demander de présenter l'étape, il vient de le faire. D'accord.
Ah, j'ai parlé du vent.
Tu avais d'autres choses à dire ?
Il y a quand même une difficulté sur cette étape.
Alors, vas-y, parle-nous de cette étape. On va passer sur les routes qu'on a déjà.
De la première étape, ouais. Où on a un sprint à Isberg, bien connu, hein, Isberg, le Grand Prix d'Isberg. Le Mont Cassel, de nouveau, qu'on a déjà fait.
Dans le même sens ?
Non.
Ah.
Et
les pavés seront aussi glissants ou...
Ah bah les pavés seront glissants.
Ah oui, c'est là où Thomas est...
Ouais, normalement, il y aura pas mal de pluie demain. Et comme a dit Jérôme, hein, la première partie de l'étape, alors là, ça sera plutôt vent de côté, voire trois quarts face. Par contre, les 60 derniers kilomètres à partir du sprint, c'est vent de face. Donc, est-ce qu'on aura des courageux pour aller dans l'échappée ? On verra. Pour le maillot à pois, bah, finalement, il n'y aura rien à gagner. Comme il n'y a qu'un petit point, ça restera chez Tadej Pogacar. Après, est-ce qu'il y aura des courageux pour se lancer à l'avant ? On verra.
Ça peut nous faire une étape sieste totale, c'est-à-dire sans échapper, sans rien, comme c'est arrivé l'année dernière ?
C'est fort possible. Ah, oui. Peut-être que si je prends ma place sur la moto, il y aura peut-être une échappée. Si c'est moi, il y aura la pluie et pas d'échappée.
C'est acté. Je prends ta place. J'ai besoin que tu sois en pleine forme sur la troisième semaine. Moi, je peux coincer. Je ne suis pas un homme de montagne. Et vu mon physique, je vais plus vite dans les descentes que dans les montées. Donc, je vais faire de la moto sur le plat demain, ça ira très bien. Puis s'il pleut, bah écoute, on s'abritera, on ira à Petit Marco, on ira baiser un canon, puis voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise.
Je sais pas si le Mont Cassel, ce sera la partie avec des pavés.
Ah.
Apparemment, c'est pas la même départementale. C'est pas la même départementale.
Non, je pense que c'est la bosse du circuit du Mont Cassel, mais de l'autre côté qui est sur l'asphalte.
Alors, victoire pour qui demain ? Les sprinteurs ? A priori.
Oh oui.
Ah non, il y a pas. Lenny Martinez demain.
Avec le Mont Cassel.
On espère, pourquoi pas, enfin, parce qu'on va pas non plus se plaindre, ça doit arriver dans le tour, un sprint avec tout le monde, tous les gros sprinteurs, quoi. Une vraie explication.
Ouais, voir ça met du coup rapide. De coude,
elle est voilà, comment l'arrivée, le boulevard d'arrivée, c'est comment, Jérôme ?
Bah écoute, c'est une route.
Il a bien travaillé son truc. Hein. Il a vraiment bien travaillé son truc.
6 mètres de large, la route. Non, il y a un bon virage à 1,3 km de l'arrivée. Après, c'est pas rectiligne. Cyril Guimard aurait pas été content. C'est un peu des légères enfilades, mais il y aura rien de dangereux. T'inquiète pas, ils auront de quoi s'exprimer.
Allez, en un mot, votre vainqueur, votre favori pour l'étape de demain, Pierre.
Milan.
On commence par toi. Jonathan Milan, Jérôme Coppel.
Lui que j'allais donner, je vais dire.
Mais non, mais tu peux le donner.
Ah,
là,
bah, c'est Milan.
C'est pas les paris qu'on là.
Milan.
Là, on aide nos auditeurs si tu veux quand même. De temps en temps, faut un peu les aider. C'est pas avec Jérôme Pinot qu'on va les aider, mais sait-on jamais. Monsieur Lapine.
Jasper Philipsen.
Jamais 203.
Ok. Et ben moi je vais.
Bah, il est qu'à une.
Moi, non, mais l'équipe. L'équipe est à deux.
Tim Merlier.
Il a toujours des problèmes.
Il est grand temps que cette émission se termine parce que le Breton en face vient me le coller là.
Tim Merlier pour Christophe. De toute façon, je serai pas là demain, donc vous serez
tranquille. Ah. Et moi non plus.
Eh ben c'est pas trop tôt.
Ça va être le calme dans ce studio.
Oh, ça va être tranquille.
Gégé, tu vas avoir du temps de parole. Un an plus savoir en
quoi. Il y aura Maria.
Il y aura Maria dans le camion avec nous. Ben oui. Bien, elle vient avec ses couettes ou non ? Allez, à demain, prise d'antenne 14h. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec l'after foot. Ah oui, après l'after tour. Voilà, l'after foot. Et c'est avec Nicolas Jamin. À demain, 14h. Bonne soirée. Ciao.
Retrouvez l'after tour tous les jours pendant le Tour de France.
De 19h à 20h sur RMC.